Bonjour à tous, aujourd'hui dans Profession de foi, émission spéciale consacrée aux 40 ans de la victoire de François Mitterrand comme président de la République, avec un invité qu'il a bien côtoyé et qu'on surnommait le serrurier de François Mitterrand. Il s'agit de Jean Euler.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Monsieur François Mitterrand est élu ce soir président de la République.
Ce 10 mai est un jour de joie.
51,7%.
C'est un jour de joie pour des millions d'hommes et de femmes dans ce pays qui ne pouvaient plus continuer à vivre dans la société qui leur était faite.
Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail. Elle est aussi celle de ces femmes, de ces hommes, humbles militants pénétrés d'idéal. Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, ferments de notre peuple, qui, deux siècles durant, dans la paix et la guerre, par le travail et par le sang, ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès.
Vive l'unité prolétarienne !
J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
I have a dream, Harrigan, that one day this nation will rise up.
Qui j'ai demandé ce
and a preacher from Atlanta who told the people that things have come to America.
Le nationalisme, c'est la guerre.
Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981, c'est l'espoir.
Relancer l'économie, réduire les inégalités entre les Français.
La justice, mes amis, elle est au cœur du combat des socialistes. Elle en est la flamme vivante.
Nous avons un devoir de victoire en 2012 pour la France et pour les Français.
C'était le 10 mai 1981, il y a 40 ans, la première victoire aux élections présidentielles de la Ve République d'un socialiste. François Mitterrand était élu avec 51,76% face au président sortant, Valéry Giscard d'Estaing. D'ailleurs, François Mitterrand sera réélu en 1988. Cette victoire qui a marqué plusieurs générations pèse pourtant lourd dans l'héritage du Parti socialiste aujourd'hui. Personne, pourquoi le nier, n'étant arrivé intellectuellement, politiquement ou même stratégiquement à gauche, à le faire véritablement oublier. Certains historiens considèrent qu'il est le dernier grand président de la Ve République, le dernier à avoir eu la taille pour exercer la charge du premier citoyen, comme il le disait lui-même. Pour parler de cet anniversaire de la victoire du 10 mai 1981, pour cette émission exceptionnelle qui sera agrémentée des principaux discours de François Mitterrand, j'ai demandé à celui qui est incontournable en Alsace de venir nous en parler. Il fut un proche de François Mitterrand, on le surnomme encore le serrurier de Mitterrand, ancien député jusqu'en 1993, ancien député européen, ancien adjoint au maire de Strasbourg, ancien conseiller général, syndicaliste. Il a été tête de liste des socialistes face à Marcel Roudloff en 1983. C'est un ami pour qui j'ai beaucoup d'estime, car il fait partie de ceux qui ont contribué à ma formation politique. À 84 ans, il reste toujours alerte sur l'actualité. Aujourd'hui, dans Profession de foi, nous recevons Jean Euler, une émission réalisée par Valérie Vial. Bonjour Jean Euler, vous allez bien ?
Bonjour. Oui, ça a l'air d'aller.
Merci de nous recevoir chez vous à Strasbourg, dans le salon de votre domicile. Vous avez toujours vécu de manière très simple. Merci aussi d'avoir accepté cette interview pour parler des 40 ans de la victoire de François Mitterrand. Depuis votre retraite politique, vous êtes resté très discret. Vous n'avez pas beaucoup accepté d'interview. Nous prenons cela donc à Radio Judaïka comme un grand honneur que vous nous faites. Nous sommes le 10 juin 1981. François Mitterrand vient d'être élu. Vous êtes à Strasbourg. Comme le président d'ailleurs vous l'a demandé, vous pensez à quoi à l'annonce des résultats?
Je peux dire c'était un petit peu la joie de la réussite des élections. Et surtout, j'avais une mission qui m'a été confiée par François Mitterrand, c'est de faire un meilleur résultat en Alsace. Et dès 79, je me suis attaché, notamment en tant qu'élu, à cette charge. L'important, parce que je pense que le résultat de 74 n'était pas tellement joyeux pour François Mitterrand, et il a voulu se donner les moyens pour avoir un meilleur résultat. Et ce moyen, c'était moi, dès 1975, il m'a laissé entendre qu'il compte sur moi pour mieux implanter le PS sur la région Alsace.
Vous avez l'impression d'avoir réussi ?
Si je regarde autour de moi, j'ai bien réussi. Mais j'ai peur qu'il y en a qui foutent en l'air ce qu'on a réussi.
Cette interview, Jean Heller, va être agrémentée de plusieurs documents sonores que nous allons écouter ensemble. Je vous propose de réécouter la déclaration de François Mitterrand au soir du 10 mai. Nous sommes à la mairie de Château-Chinon.
Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seul la communauté nationale entière pourra répondre aux exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que dans la fidélité à mes engagements, elle trouve le chemin des réconciliations nécessaires. Nous avons tant à faire ensemble et tant à dire aussi. Des centaines de millions d'hommes sur la terre sauront ce soir que la France est prête à leur parler le langage qu'ils ont appris à aimer d'elle. Mesdames et messieurs, j'ai une autre déclaration brève à faire. À monsieur Giscard d'Estaing, que je remercie de son message, j'adresse les vœux que je dois à l'homme qui pendant 7 ans a dirigé la France. Au-delà des luttes politiques et de nos contradictions, c'est à l'histoire qu'il appartient maintenant de juger chacun de nos actes.
Vous vous souvenez de cette déclaration ?
Non, pas tellement. Pas tellement. Je pense qu'on était plutôt une soirée de fête et que c'était pas tellement la déclaration. C'est la réussite électorale qui était importante.
Comment vous êtes arrivé à participer aux années Mitterrand, Jean Heller ?
Je dois revenir un petit peu en arrière, avant les élections. Parce que moi, j'ai adhéré au PS sur la base des propositions de François Mitterrand au congrès d'Épinay.
En 1971.
J'étais sur la liste d'Union de la gauche, liste municipale. J'avais aucun engagement politique à ce moment-là. Le PS, je ne le connaissais pas, parce que c'était la grande partie du PS et des universitaires. Ce n'était pas mon milieu où je militais. Je militais plutôt dans le quartier du Hauberg et dans d'autres quartiers de Strasbourg, et je faisais du syndicalisme. Donc, je cherchais comment donner une continuité politique à mon action associative et syndicale. Et j'ai trouvé ma chance à travers la venue de François Mitterrand au PS. Donc, en septembre 71, j'ai adhéré au PS.
On peut considérer cette victoire comme une révolution, comme certains observateurs de l'époque pouvaient le dire ?
Oh, on a tout entendu. On a entendu que les chars vont venir au Rhin. On a entendu pas mal de choses. Moi, j'avais démarré en 73 de construire ma résidence secondaire au Braslar, dans l'objectif que s'il m'arrive quelque chose, que ma famille a une assurance. Donc, c'était la maison. Mais il y en a qui venaient vers moi en me disant « Comment ça se fait que vous construisez ?» Aujourd'hui, la veille des élections présidentielles de 1974, j'ai dit « Écoutez, vous avez tellement peur que Mitterrand vous prend vos maisons, alors je me dépêche de construire pour qu'il puisse prendre la mienne.
» Comment vous avez rencontré François Mitterrand ?
François Mitterrand, je l'ai rencontré au Congrès de Nantes.
En 1975.
En 75. Mais, très bref, Melvi m'avait déjà repéré à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé à Pierre Mauroy de me trouver un poste d'attaché parlementaire pour que je puisse travailler avec lui.
Ah bon, mais je ne savais pas que vous étiez attaché parlementaire.
Non, je ne suis pas devenu attaché parlementaire. Il m'a rappelé ça en 78, donc j'ai commencé à travailler au parti en 1979.
Il était comment François Mitterrand ?
Comment il était ? Pour moi, il m'était proche, je partageais beaucoup avec lui. Donc il faut dire qu'il y avait le programme d'Union de la gauche, programme commun et tout ça. On travaillait dans cet esprit. J'avais déjà bien réussi électoralement en 78. J'étais à la veille de battre entrée-porte en 78. Et je dois dire, il y a une rencontre sur le trottoir Palais Bourbon entre Mitterrand et Pierre et Georges Marchais.
Là, vous parlez de l'accord de gouvernement avec le Parti communiste.
Cet accord qui était fait en 78 m'a pas tellement porté ma chance parce que les centristes qui m'appréciaient dans le secteur se sont un peu détournés à ce moment-là. Donc il me fallait un peu plus de travail pour soigner mon implantation.
C'était quoi ses défauts à François Mitterrand ?
Les défauts, je ne peux pas dire que j'ai observé des défauts. Je ne me suis pas rapproché de lui pour observer les défauts. C'est plutôt l'ouverture pour moi vers le milieu syndical, le milieu associatif. Et là, il me faisait confiance. Il me faisait confiance à travers mes connaissances de terrain.
C'était un orateur né, hein ? On était subjugué lorsqu'il parlait.
Oui, mais il avait tellement de qualités au niveau de la parole, mais il avait d'autres. Une anecdote que je peux rappeler, qui m'a frappé. Il est venu pour la première fois à Strasbourg soutenir Marc Brunschweiler. Marc Brunschweiler a été élu en 1976. Son élection a été cassée. Il devait être réélu. Et François Mitterrand, il est venu à la Cité de Lille. Et de la Cité de Lille, on est parti et il a fait une réunion au Palais des Fêtes. Et au Palais des Fêtes, à un moment donné, il y en a qui disent il y a de l'opposition dans les tribunes. Alors François Mitterrand dit à Pierre Joxe, j'ai besoin de cette opposition.
C'est vrai que François Mitterrand avait l'habitude de dire lors des grandes manifestations « Laissez-les gueuler ».
Oui, oui, parce que politiquement, il était fort et c'était ce piment, je dirais. C'est...
L'adversité.
Oui.
Cette victoire de 1981, elle a été très longue à se dessiner. Plusieurs polémiques ont émaillé la vie politique de François Mitterrand, vous le savez. Certains ont contesté le fait que François Mitterrand soit un homme de gauche. Vous en pensez quoi, vous ?
J'ai jamais mis une importance à ce qu'on disait autour de François Mitterrand. Il faut que je reconnaisse J'étais un fidèle, pas direct.
Oui, on en parlera tout à l'heure.
Mais j'étais plutôt proche de Jean Popren, oui, pas direct, hein, et de Pierre Schox. C'était un petit peu de ceux que je partageais le plus au niveau au Parti Socialiste, quoi.
Toutes ces polémiques, cela ne vous intéressait pas, c'est ça? Et vous, ce qui comptait, c'était le résultat?
Il faut quand même que je rappelle qu'on est arrivé, on pouvait dire ce que vous voulez, on est arrivé en 79 d'amener François Mitterrand au Hauberg, à Haute-Pierre, à Neuhof, à Neudorf, à Schildigheim, pour les élections cantonales de 79. Et le résultat, c'était 4 conseillers généraux élus.
Dont vous?
Dont moi, Raymond Kruper, Alfred Müller. Marc Punchwaler était déjà élu avant, mais rien n'empêche. Il y avait un résultat de tous ces déplacements de François Mitterrand dans notre région. C'était un militant de terrain avec nous. À un moment donné, pour la petite plaque, à un moment donné, quand on était à Neuhof, à la paroisse protestante, il m'a dit, si maintenant je ne reçois rien à manger, j'arrête la réunion. Finalement, le pasteur est rentré chez lui, il se prépare une soupe, Raymond Kruper est rentré chez lui, cherchait quelque chose, et on a mangé dans le salon du pasteur, et après on est parti, continuer les réunions, à Neudorf et à Schildigheim. Mais ça veut dire combien son militantisme pour nous aider était important dans ces moments-là.
Le terrain, la France, la proximité, c'était déterminant pour François Mitterrand.
Oui. Moi, c'était l'homme de terrain qu'il était à ce moment-là, c'était le plus important pour moi.
C'est important ce que vous dites parce que François Mitterrand, c'était aussi un homme de maquis, on l'a oublié, et c'est un homme qui connaît le Morvan comme sa poche. Je vais vous faire écouter une de ses interventions sur le maquis de la région de Monsauche. Elle date de 1954 et François Mitterrand était alors conseiller général de Monsauche.
En 1944, plusieurs villages du Morvan et de la Nièvre furent détruits, brûlés, saccagés par l'occupant en déroute. En effet, le maquis avait trouvé dans ce territoire un terrain d'élection. L'accueil que lui faisait la population, l'esprit général des résistants nivernais, devait permettre à la fois à cette région de connaître ses heures de malheur en même temps que ses heures de gloire. Plusieurs années après, on peut faire le bilan. Et si tout n'est pas terminé partout, déjà, notre chef-lieu de canton de Monsauche a retrouvé son air de gaieté. La vie a repris ses droits. L'effort qui a été fait afin de moderniser cette région n'a pu être réalisé que grâce au concours des maires, des conseils municipaux, de toutes les collectivités locales, des associations multiples qui aiment leur Morvan, leur coin de Morvan. Déjà, les routes ont repris une allure peu supportable. En 1945, on n'osait pas pénétrer dans ce département si déshérité. Et l'on faisait le tour en passant soigneusement par Lyon, par la Côte d'Or ou par la Saône-et-Loire. Laissait-on attirer au courant des mois de l'été beaucoup de monde? Je crois que chacun y trouve, avec un peu plus de santé, beaucoup de plaisir. Vous savez que l'on a également, à Pansières, créé un barrage qui donne à cette région un cachet touristique extrêmement rare.
Oui, je peux quand même rappeler, quand il était élu, il a fait une soirée de Nouvel An à Strasbourg, à la préfecture de Strasbourg. C'est pas à Paris qu'il l'a fait, c'est à Strasbourg qu'il l'a fait. Et quand il était élu, il a passé aussi des moments difficiles en 84, avec l'histoire du synchrotron, où les élus alsaciens, les grands élus alsaciens, lui ont tourné le dos. Hein, Eiffel et d'autres. Le pauvre Marcel Routeloff a subi les conséquences. Et je dirais, le jour qu'il était pour la revue militaire, Marcel Routhoff lui serrait la main, il lui a tourné le dos. C'était des moments pour moi extrêmement difficiles parce que j'étais au conseil général et c'est moi qui prenais les coups de la droite. Mais ça ne m'a pas dérangé parce que j'avais l'explication de François Mitterrand pourquoi que le synchrotron il va à Grenoble.
C'était quoi les explications du synchrotron dans l'Isère ?
L'explication qu'il nous a donnée, il le devait à Mermaz. Parce que Mermaz lui ramenait un bon escorte, un déplacement. Quoi. Mermaz faisait partie des proches...
Des caciques de gauche.
Oui, mais sur un autre terrain. Eux étaient à Paris, moi j'étais à Strasbourg.
Qu'est-ce qui plaisait en vous chez Mitterrand ? Le fait que vous soyez un ouvrier, un syndicaliste, le fait que vous représentiez aussi le socialisme chrétien ?
C'est vrai que j'étais... je faisais partie de l'Action catholique ouvrière, l'ACO, on disait. Et c'est une période où pas mal de militants de l'ACO se sont rapprochés du PS et qui étaient plutôt orientés vers le centre dans le temps. Hein. Mais avec ma percée au Parti socialiste, il y a d'autres qui se sont rapprochés. Hein. Et il faut dire qu'on avait un débat important au PS en 1974 autour d'un thème qui sort de nouveau aujourd'hui, qui était la laïcité. Parce que en tant que catholique pratiquant, il fallait s'imposer à certains caciques de gauche qui ne voulaient rien entendre. Qui voulait rien entendre. Je me rappelle sur le quartier du Hauberg, à un moment donné, il y avait quelques amis, dont ma femme, qui voulaient se rapprocher de la Fédération Cornec. La Fédération Cornec était fermée à ce que les catholiques ne pouvaient pas rentrer. C'était les purs et durs de la laïcité.
Et aujourd'hui encore, on débat de la laïcité. Cela n'a pas avancé, comme en 1974 d'ailleurs.
En 74, comme ça se renouvelle. Aujourd'hui, moi, je me retrouve en 74. Non, mais le débat avait lieu pour le respect de la laïcité. Parce qu'on ne demandait pas autre chose. En tant qu'engagé au niveau catholique, on ne demandait pas autre chose que le respect de la laïcité. Parce que la laïcité, c'est la tolérance. Or, il y a des gens qui étaient à gauche et qui n'étaient pas dans cette tolérance-là que nous, on a exigé.
Je voudrais qu'on revienne sur un moment clé de l'histoire de François Mitterrand. C'est un peu la genèse de son combat politique. François Mitterrand a été fait prisonnier de guerre en Allemagne. Il s'est évadé en 1941 et a rejoint Vichy. Ce qui lui vaudra d'ailleurs la fameuse Francisque des mains de Pétain, qu'on lui reprochera d'ailleurs, toute sa vie. Il va très vite s'intéresser aux conditions des prisonniers de guerre. En 1943, il fonde d'ailleurs le Rassemblement national des prisonniers de guerre et agit dans la clandestinité en devenant une organisation de résistance anti-allemande, mais tout en restant proche des vichistes. Et toujours en 1943, il va rencontrer le général de Gaulle à Londres. Il fusionne son mouvement avec les gaullistes et les communistes pour constituer ce qu'on appelle le mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. C'est ce mouvement qui va participer notamment à la libération de Paris. Et c'est ce qu'il nous rappelle dans ce document exceptionnel de 1945 lors du congrès de la Fédération nationale des prisonniers de guerre.
Mais je pourrais quand même dire et affirmer en toute vérité que de nombreuses villes importantes de France furent délivrés par des groupes spécifiquement prisonniers de guerre. Et je pourrais rappeler qu'à Paris comme ailleurs, les prisonniers de guerre étaient au premier rang, c'est-à-dire autour de l'hôtel de ville, c'est-à-dire autour de la cité, c'est-à-dire aux Batignolles, c'est-à-dire dans la banlieue ouest, c'est-à-dire dans la banlieue nord, partout où l'Allemand s'accrochait, nous avons été présents. Et ce furent des journées glorieuses, mais aussi des journées difficiles. Des journées difficiles parce que la confusion régnait et parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Nous étions ici cernés à Paris, avec l'impossibilité de communiquer avec les provinces, parce que plus de transport, pas d'essence, aucun moyen. Et de ce fait, des difficultés originelles se sont créées trop souvent entre nous, de telle sorte que fort souvent, nous avons eu des difficultés à nous comprendre. Mais dès les premiers jours, les centres d'entraide ont eu dans leurs représentants Devaux, Cornuau, quelques autres, des hommes à l'intelligence et au cœur suffisamment vaste pour admettre qu'il y avait quelque chose de magnifique à construire. Et quand nous nous sommes retrouvés rue Meyerbeer, alors que les Allemands étaient encore dans la commandanture voisine, alors que les Allemands circulaient dans la rue même, et que nous nous sommes dit, voici que la France est libre, et qu'allons-nous faire? Voici que la France enfin retrouve son indépendance, et peut retrouver sa grandeur. Est-ce que nous, les captifs, de quelque chapelle et de quelque origine que nous soyons, nous allons, oui ou non, participer à cette grandeur? Et nous étions saisis par le rôle magnifique et lourd qui nous incombait.
C'était François Mitterrand en 1945. Son passé vigiste vous a dérangé, Jean Euler?
Pour moi, personnellement, je ne me suis jamais tenu à ça. Pour la simple raison, moi, je voyais François Mitterrand en 1971. Hein, pour moi, militant ouvrier que j'étais, ça m'a largement dépassé. Toutes ces critiques que j'ai entendues, ça me concernait, je ne me sentais pas concerné par ça.
L'objectif des critiques, c'était quoi? Chercher à le déstabiliser?
Je pense qu'il y en avait qui avait intérêt d'essayer de le déstabiliser à ce moment-là. Mais j'ai eu la chance, à partir du moment qu'on parle de ce moment, j'ai eu la chance de l'accueillir à Ensheim lorsqu'il est revenu avec Willy Brandt de ce déplacement en 1980, où il a fait le voyage du parti où il s'est enfui de prisonnier de guerre et qu'il est allé vers la libération. Ce voyage, il l'a fait avec Willy Brandt. Et Willy Brandt l'a amené à Ensheim. Malheureusement pour lui, l'avion était déjà parti quand il est arrivé à Ensheim. Et c'est moi qui a téléphoné au Sofitel pour lui réserver une chambre. Et j'ai profité de l'occasion de sa présence à Strasbourg de faire appel à Jean-Louis English.
Qui était le patron des DNA d'ailleurs.
Qui a passé une soirée merveilleuse avec François Mitterrand et moi-même au Sofitel. Quoi.
On l'a peut-être oublié, mais c'était le général de Gaulle qui va finalement lancer la carrière de François Mitterrand. C'est lui qui va le nommer secrétaire général intérimaire aux prisonniers de guerre, qui jouera le rôle de ministre en 1944. Au fond, c'est Mitterrand qui refuse de rester aux côtés du général de Gaulle. Beaucoup estiment qu'il y avait un antagonisme profond entre lui et le général de Gaulle. Mais pour vous, cet antagonisme est surtout politique au moment des élections présidentielles.
Je pense cette position s'est plutôt dégagée en 1965. Au moment où il se présente contre De Gaulle. Hein, c'était vraiment une différence. Et moi, je ne me sentais pas concerné de cette période-là. Parce que je rappelle quand même qu'en 1965, j'ai voté De Gaulle. Je n'ai pas voté Mitterrand.
À l'époque, Mitterrand, en 1965, critique la Ve République.
Oui, mais il avait le pouvoir.
Mitterrand n'avait pas peur de parler de pouvoir, il parlait de pouvoir. Aujourd'hui, les hommes politiques, c'est vrai, ont peur de parler de pouvoir.
C'est ça. Hein. Je me rappelle, en 80, pour la présidentielle de 81, il m'avait invité rue de Pièvre, avec Alfred Müller et Raymond Kruber. Et dans la discussion, on avait un différent au Conseil général à Strasbourg, où Alfred Müller était sur un dossier, il demandait qu'on s'abstienne. Et moi, j'étais opposé à l'abstention. Raymond Kruber ne savait pas est-ce qu'il doit s'abstenir ou il doit ou pas, mais en tout cas, on n'avertait pas. Et lorsqu'on était chez Mitterrand à table, rue de Pièvre, on est venu avec ce sujet. Mitterrand nous a dit, quand on est à l'opposition, on ne s'abstient pas. On vote contre. On peut s'abstenir lorsqu'on a un pouvoir. Lorsqu'on fait partie de la majorité et qu'on n'est pas tout à fait d'accord, on peut s'abstenir. Mais quand on est à l'opposition, on ne s'abstient pas, on vote contre. Et c'est ça l'histoire du pouvoir que moi j'ai retiré de François Mitterrand. Hein ? Il n'était pas un pied dehors et un pied à l'intérieur. Pour être à l'intérieur, il faut avoir le pouvoir.
Le pouvoir, c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il a cherché toute sa vie et qu'il a eu.
Oui, il a eu fortement. Mais tout à l'heure, on a parlé d'autres périodes, mais en 81, il lui fallait ce pouvoir. L'histoire de la peine de mort, l'imposer comme il l'a imposé.
Contre la majorité des Français.
Absolument. Et je crois qu'il nous a donné d'autres orientations, comme la cinquième semaine de congé payé. Il fallait son autorité, à un moment donné. Quand on parlait des lois Auroux, on avait ce soutien, totalement. Moi, j'ai travaillé avec les lois Auroux, avec Martine Aupry. On a préparé les lois Auroux. J'étais rapporteur d'une des lois, l'obligation de négocier. Mais on savait qu'on avait le total soutien de François Mitterrand dans les démarches qu'on avait entamées en 82. Quand on a fait les propositions sur le logement, sur les quartiers, on avait le soutien de François Mitterrand. C'était une force pour nous d'avoir ce soutien dans la démarche. Mais il fallait qu'on mène la réflexion à l'Assemblée nationale. On était un petit groupe de 6 ou 7 personnes qui menaient la réflexion, mais on menait la réflexion. Sur les 4 lois Auroux, on était une dizaine de personnes au maximum. Avec Martine Aupry.
Jean Heuler, vous venez de nous faire cette révélation qu'en 1965, vous avez voté pour le général de Gaulle. Qu'en 1971, vous adhérez au Parti Socialiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette période entre les années 60 et les années 70 pour que vous changiez d'opinion politique?
Entre 1960 et 71, je peux dire, il y a toute mon action associative et syndicale qui a joué un rôle.
Et là, vous ne vous retrouvez plus chez le général de Gaulle ?
Et là, je ne me retrouve plus ni chez de Gaulle, ni chez les centristes. Parce qu'il faut quand même que je me rappelle que Émile Kehl, à un moment donné, m'a invité à une réunion qui avait lieu au Parlement européen avec Fontanelle. Pour les élections municipales de 71, il y avait le conflit entre Porte et Pflimlin. Émile Kehl m'a invité dans une des réunions parce qu'il pensait toujours m'attirer vers les centristes. Quand on a quitté la salle de réunion, j'ai dit, Émile...
Ça ne le fait pas.
C'est pas moi. C'est pas moi. Et sur ça, il y a des militants communistes qui me connaissaient et qui connaissaient mon engagement associatif et syndical, qui m'ont demandé à être sur la liste d'Union de la gauche des municipales de 71. Et c'est là où j'ai commencé à faire une démarche qui était un peu plus politique. Un peu plus politique, en lien avec l'action qui était menée sur les quartiers. Il faut quand même rappeler que 1971, ces quartiers comme le nôtre ici étaient en pleine construction. C'était l'avenir de ces quartiers qui se préparaient. Et il y avait de quoi faire.
Quand on réécoute les discours, les interviews, les enregistrements de François Mitterrand, qu'on apprécie ou pas le personnage, on est forcément ébloui par sa culture générale, son intelligence. Est-ce que, d'après vous, des présidents de la République, après lui, ont eu son niveau ?
honnêtement, je redis mal à dire oui. Non, mais je crois. Trop de choses, c'est construit autour des énarques et des hauts fonctionnaires.
Vous voulez dire que c'est la haute administration qui a pris le dessus sur la politique, c'est ça, c'est verrouillé.
C'est verrouillé. Moi, j'avais un petit exemple où j'ai dit à Pierre Mauroy, ça ne va plus. Pierre Mauroy m'avait demandé de faire un travail sur les travailleurs frontaliers, parce qu'il estimait qu'on ne le connaissait pas assez, ce problème de travailleurs frontaliers. Et il m'a dessiné pour faire un rapport. J'avais 6 mois pour faire ce rapport. Je me suis déplacé à pas mal de frontières. Mais lorsque j'ai commencé à réunir les différents ministères à Paris pour en discuter, à chaque réunion, j'avais d'autres fonctionnaires en face de moi. À un moment donné, j'ai dit à Pierre Mauroy, ça ne peut pas aller. Parce que chaque réunion que je fais, il faut que je recommence à m'expliquer sur les thèmes importantes concernant le travailleur frontalier. J'ai dit, moi, j'ai fait un travail, maintenant je souhaite que l'administration fasse aussi le travail à côté de moi.
Comment on en est arrivé là? Est-ce la faute de la Ve République? Est-ce que le pouvoir dont on parlait tout à l'heure n'a pas échappé au président?
Je dois reconnaître qu'il y en a peut-être, en dehors des hommes politiques, des gens qui ont pris le dessus. Et ce dessus se fait ressentir tous les jours. Quand je regarde la télé actuellement, avec les problèmes qui se passent sanitaires et tout ça, les problèmes économiques, on sent quand même l'importance des corporatismes qui sont là. C'est les corporatismes qui s'imposent aux élus. Et c'est ça qui va trop loin. Et ça, on le sous-estime. Et on le payera demain.
Vous voulez dire que les citoyens ne sont plus au cœur des préoccupations? Ça pose un souci politique.
Oui, absolument, absolument. À quel moment que tout ça, ça nous échappe, je ne sais pas. Mais Macron, pour moi, est un grand responsable. Lorsqu'il a dit il faut se débarrasser de la gauche et la droite, il se débarrasse de structures politiques qui ont une réflexion. Elle est bonne, elle est mauvaise, ça m'importe peu. Mais il y a une réflexion commune à l'intérieur des partis politiques. Et cette réflexion de partis politiques n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'intention de te parler de petits sourciers.
Vous parlez de réflexion, mais déjà, si on pouvait avoir des convictions, le sentiment qu'ont les électeurs, c'est que les politiciens sont devenus des carriéristes, qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Vous faites ce genre de réflexion, par exemple, à votre fils, Serge Lair, qui sera de nouveau candidat PS aux élections départementales?
Tout à l'heure, j'avais Serge au téléphone et qui me parlait de la préparation de la campagne électorale à venir. J'ai dit, Serge, j'ai vu l'affiche que tu m'as envoyé, je suis content de voir le point et la rose. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup à Strasbourg ignorent ce que cet emblème nous a apporté à travers les années. Le point et la rose étaient des références, ça traînait des valeurs. Et je crois que c'est ça qui est important, les valeurs qu'on a entraîné avec nous. Mais autour de ces valeurs, moi, je me rappelle d'une campagne électorale que je faisais à 86 avec Catherine Trottmann. On m'a dit, les élections sont perdues pour toi, en 86. Parce qu'il y en a qui poussaient Alfred Müller pour présenter sa liste à 86. Alors je dis, ne vous faites pas de soucis, je fais campagne électorale. Tous les matins, je partais chercher Catherine Trottmann. On allait à travers le département, tous les chefs-lieux de canton. on a parlé de la politique des socialistes, des propositions des socialistes. Et c'est ça qui a fait qu'en 1986, tous les deux on soit élus et Alfred Müller n'était pas élu. On n'était pas là pour tergiverser. On était là pour donner notre opinion en tant que socialiste par rapport aux problèmes de société.
Vous parlez des valeurs du socialisme, Jean Euler, et ça tombe bien, puisque c'est en grande partie dans les livres que François Mitterrand puisait ses idées. Et à l'époque, c'est sur ces questions de culture générale, de livres, de littérature, que les journalistes lui posaient surtout des questions. Je vous propose de réentendre un extrait d'Interactualité en 1975. Vous allez voir, c'est très évocateur.
Vous dites que vous lisez. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, par exemple ?
Ah, qu'est-ce que je lis pour l'instant ? Le livre de Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Voilà, bah, je dis ça parce que je l'ai dans ma petite serviette et que j'aurais eu le temps de le lire dans le train si d'aimables journalistes ne m'avaient pas, je dirais pas dérangé du tout, mais occupé autrement. Bon, j'ai également un petit bouquin sur l'histoire de la Provence. Voilà les deux livres que j'ai avec moi.
Est-ce que vous préférez les ouvrages romancés ou les ouvrages politiques ?
Je n'aimerais pas les ouvrages d'histoire ou de politique romancée. J'aime les œuvres d'imagination, donc les romans. J'aime aussi les livres de réflexion, les journaux personnels. J'aime les relations historiques vécues. Et puis j'aime ce qu'on pourrait appeler la grande histoire. Bon, ben, disons que je suis assez éclectique.
Mais vous arrivez à lire des ouvrages dont les auteurs ne partagent pas vos idées politiques aux
auteurs ? Naturellement. Pourquoi vous pensez que je pourrais être autrement ?
Non, pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'on peut donner maintenant un statut plus sûr à un écrivain, un statut, sans en faire un fonctionnaire de la littérature ?
Oh oui, rien ne serait pire que de faire des fonctionnaires de la littérature. Remarquez qu'il y a des fonctionnaires de la littérature à toutes les époques. Il y en a qui furent grands, après tout, Mérimée, sous le Second Empire, ça a été un fonctionnaire de la littérature. Il a rendu de grands services. D'ailleurs, marqué plus dans le domaine de l'architecture que dans le domaine de la littérature. Il y a des écrivains officiels. Regardez, c'est pas le bonshomme de l'Académie, dans leur majorité, bien entendu. Bon, ces fonctionnaires qui, de temps en temps, deviennent ministres et qu'on distingue généralement à leur absence de talent. Bon, il y a des fonctionnaires sous tous les régimes. Il y en aurait sous un régime socialiste aussi. Rien de pire que l'académisme. Rien de pire que la servilité. Et sous tous les régimes, si l'on connaît bien la nature humaine, il y aurait servilité et il y aurait académisme. Mais cela n'est pas propre au régime politique. Cela est propre à la nature de l'esprit humain qui termine sa course après avoir découvert. Ensuite, il se répète. Alors il en faut d'autres qui cassent le moule, qui réinventent, et puis il se répète. Ainsi vont les choses.
François Mitterrand, 1975, dans Interactualité. Jean Euler est notre invité dans Profession de foi pour parler de la victoire de François Mitterrand il y a 40 ans. Jean Euler, vous êtes un des premiers à vous être imposé en tant que socialiste dans la région Alsace.
J'étais élu la première fois au Conseil général en 79. Mais j'ai dit tout à l'heure, le rôle qu'a joué François Mitterrand à nos côtés pour préparer ces élections. Le premier, c'était Marc Brunschweiler, voilà. En 76. Je me suis imposé à Marc Brunschweiler qu'il aille à la Roberto. Il n'habitait pas à la Roberto, mais il est allé à la Roberto faire la campagne. Et il a réussi en 76.
Mais quand un socialiste était élu en 1976, en Alsace, c'était un exploit.
Absolument. Je voulais dire, c'était un miracle. Non mais, c'est vrai. Cette période, il faut que je rappelle les municipales de 77, où à Oswald, on commence à s'implanter sérieusement. À Bischheim, on a loupé l'Union de la gauche, parce que les communistes n'ont pas joué le rôle jusqu'au début, jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'ils se dessinaient à de droite comme maire de Bischheim. Ils ne voulaient pas de socialistes. Ils étaient très stress. Et le 27e, c'était une personne qualifiée. Ils se préféraient avoir une personne qualifiée qu'un socialiste. J'ai fait des déplacements à cette période-là à Pichheim pour essayer de convaincre les copains d'y aller. Mais ils étaient unis de la gauche pour eux. Ils ne voulaient rien savoir. Alors, cette période dure qu'on a vécue. Hein. Quand j'étais à Oswald pour composer la liste en 1976, j'étais à Oswald dans une CAF pour convaincre des militants pour présenter une liste à Oswald avec Enel. Mais ils ont réussi. Je crois que c'était ça la force à un moment donné, pas étape par étape. Hein.
Vous vous rendez compte de tout le travail que vous avez effectué pour développer l'idéologie socialiste alors que vous n'étiez qu'un ouvrier ?
Oui, mais il faut reconnaître, arriver au Parti Socialiste pour moi était un combat. J'avais des universitaires en face de moi.
Pas facile finalement de s'imposer à la tête de la Fédération du PS.
Oui, absolument. Et les chevaliers, comme on les appelait, le CRS dans le temps, ils s'étaient totalement opposés dans les années 74-75. À un moment donné, et on était dans une situation conflictuelle, non négligeable, pour que je puisse garder la majorité à la Fédération du Parrain. En 75-76, on a cherché un militant qui était sur le lit de mort, presque à la veille de son décès. On l'a cherché à la maison pour voter, pour que je puisse garder la majorité. Et ça s'est passé au Mille Club de Königshofen. Pour moi, le Parti Socialiste était un combat. Ça ne suffisait pas de dire « je suis émerveillé en la venue de François Mitterrand », mais il fallait encore se battre ou combattre un certain nombre d'idées, comme la laïcité, il fallait se battre dans la région.
Mais là, vous me parlez de militants, peut-être que c'est ça la difficulté pour les mouvements politiques actuels. Il n'y a plus de militants, ils ne représentent qu'eux-mêmes.
Malheureusement, je dirais, et là, moi, je rends coupable Macron, je le rends vraiment coupable de vouloir rayer de la sphère politique la droite et la gauche. Elle avait des défauts, la droite et la gauche, mais ils avaient des idées, et ces idées, on pouvait les combattre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'idées, on ne parle que de suppression, des réformes qui n'apportent rien. Soit disant, ça doit apporter quelque chose à l'économie, mais je ne suis pas sûr que ça apportera quelque chose à l'économie. Je parle de la retraite à 60 ans. On n'a jamais dit que la retraite à 60 ans est une obligation. C'était une possibilité de prendre la retraite à 60 ans, ceux qui avaient les trimestres. Mais la retraite pleine était à 65 ans, de tout temps.
Et il faut pouvoir trouver du travail quand on a 65 ans.
Absolument. C'est là où c'est vraiment dans le vague pour des raisons, pour faire comprendre, il faut faire des économies. Du coup, il faut prendre la retraite à 67 ou 70 ans. Où est-ce que nous allons comme ça? Est-ce qu'une entreprise embauche encore quelqu'un à 60 ans?
Non, je reconnais en vous le syndicaliste, hein, Jean Euler. Hein. Cette victoire de François Mitterrand, elle a tout de même été longue à venir puisque François Mitterrand s'est présenté deux fois en 1965 et 1974 avant de l'emporter en 1980. Mais la défaite de 1974, elle a particulièrement un goût amer parce qu'elle s'est jouée à quelques centaines de milliers de voix près. Vous n'avez pas douté un moment du potentiel de François Mitterrand à gagner ?
Non, il n'y avait aucun doute à ce niveau-là. Sur la personne, c'est plutôt, il fallait aller de l'avant. Il y avait des combats internes. Le combat interne, c'était Michel Rocard. Mais en 79, au congrès de Metz, je suis monté à la tribune pour le combattre. Parce que l'autogestion ne faisait pas partie de mon orientation. J'étais plutôt quelqu'un qui allait dire il faut être présent dans le pouvoir.
Je vous propose de réécouter l'intervention de François Mitterrand en 1974 après l'annonce de sa défaite face à Valéry Giscard d'Estaing, une intervention qu'il effectue depuis la mairie de Château-Chinon.
Je voudrais vous donner avez connaissance d'une déclaration que j'adresse aux Français dans leur ensemble et particulièrement à ceux qui ont voté pour moi. À l'heure présente, le résultat de l'élection présidentielle semble acquis. Le suffrage universel est notre loi. Sa décision s'impose à tous. Je souhaite au prochain président de la République d'accomplir sa mission en préservant ce qui fait l'essentiel de notre communauté nationale. Je remercie les 12 millions et 600 à 700 000 Françaises et Français qui, en se comptant sur mon nom, ont réalisé le plus grand rassemblement de notre histoire contemporaine sur les idéaux de la gauche. Je mesure leur tristesse à la dimension de leur espoir. Qu'ils gardent foi dans la cause qu'ils servent. Grâce à eux, en ce jour du 19 mai 1974, quelque chose vient de commencer qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Une formidable coalition du pouvoir en place et des forces de l'argent a contenu d'extrême justesse le mouvement populaire. Amis de France et d'outre-mer, je vous demande de rester unis et de partager ma résolution. Notre combat continue parce que vous représentez le monde de la jeunesse et celui du travail, votre victoire est inéluctable.
François Mitterrand à Château-Chinon en 1974. Le 11 et 13 juin 1971, c'est l'acte fondateur de la création du Parti Socialiste. C'est le fameux congrès d'Épinay qui consacre la fusion de la Convention des institutions républicaines qui était portée par François Mitterrand. Il s'agissait d'un club politique ou de micro-parti et du nouveau Parti Socialiste d'Alain Savary. Vous étiez là à ce moment-là ?
C'est après le congrès que je suis arrivé. Parce que François Mitterrand avait fait un certain nombre de propositions autour de la présence du salarié. Et c'est ça qui me... Moi, j'étais... Ma lutte, c'était l'avancée des salariés. Je n'étais pas pour les compromis. Il fallait se battre.
Pourquoi le congrès d'Épinay est si important ?
C'est la naissance du Rassemblement de gauche. C'est ça. Ça m'a plu qu'il est arrivé avec le soutien de Chevènement, avec le soutien de Poprenne, de Pierre Chaux. Il est arrivé avec François, avec Pierre Mauroy. Ils sont arrivés à rassembler tous ceux qui avaient l'intention, à un moment donné, de travailler ensemble. La convention que... Dans le temps, Mitterrand tenait la convention. Je disais, la convention se réunit dans une cabine téléphonique. Il avait autour de lui un certain nombre de personnes de qualité.
C'était un peu vrai. Il a fait un hold-up politique, finalement. Il a mis la main sur le PS.
Sur le Parti Socialiste, comme d'autres mouvements de gauche. Il y avait aussi les radicaux de gauche et tout ça. Ça faisait partie d'un ensemble. Même les communistes étaient surpris à un moment donné de la volonté de François Mitterrand de vouloir créer cette union de la gauche.
Vous qui avez été un socialiste depuis la naissance du Parti Socialiste à aujourd'hui, vous n'êtes pas déçu de ce qu'est devenu le parti ?
Je suis plus que déçu. Je suis plus que déçu et je le rappelle de temps en temps plutôt. J'étais un de ceux qui a encouragé au dernier municipal, Catherine Trottmann, d'aller dans la bataille électorale, comme socialiste. Parce qu'on a besoin, non pas de faire des combines de ci pour ça, pour avoir des postes, on a besoin de se battre sur des idées socialistes.
Il est dû à quoi, ce délabrement du Parti Socialiste ?
Il est dû à quoi ? Je dirais... Les sirènes les sirènes d'attirer des militants socialistes, enfin, des socialistes, je ne parle pas de militants, des socialistes, les attirer à travers tel petit pouvoir, vers des postes de responsabilité. Et c'est ces postes de responsabilité qui ont intéressé beaucoup de socialistes. C'est pas la bataille en tant que socialiste qui les a intéressés, c'est d'avoir un poste.
Ce ne sont pas des socialistes alors.
J'ai du mal à partager. Quand je vois aujourd'hui les écologistes, j'aurais du mal à partager avec eux. On n'a pas besoin d'avoir des écologistes pour avoir des espaces verts, pour avoir des arbres. On a toujours eu le soutien. Il faut une idée d'environnement. Il faut défendre l'environnement. Mais on n'a pas besoin de rêveurs. Ce n'est pas les rêveurs qu'il nous faut avancer. C'est là mon problème de fond.
Au sein du Parti Socialiste, vous avez représenté Jean Euler, le courant de Jean Poprenne. Vous étiez considéré comme les gardiens du temple hein, des valeurs du socialisme. La liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la démocratie sociale, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, la lutte ouvrière et des salariés, l'assimilation des immigrés. Qui parle de vous encore? Où est-ce que vous êtes?
Je suis dans mon salon. C'est absolument...
Ben oui, c'est terrible.
Moi, j'avais la chance extraordinaire. J'avais une chance extraordinaire. Je travaillais avec Jean Poprenne. Régulièrement, je faisais des réunions avec lui à Paris. Et quelques-uns, Jean-Marc Ayrault, faisait partie de notre équipe. J'étais triste. J'étais triste à un moment donné quand il a rejoint Jospin. Parce que j'avais un conflit avec Jospin à un moment donné. J'ai dit, il faut une meilleure présence ouvrière. Il me répond, tu n'es pas le seul ouvrier. Ah, c'était cette idée que j'avais besoin d'affronter. Ça n'a pas choué que Jospin a couché dans notre logement à Auberque. Ça n'a pas suffi pour le convaincre avec d'autres idées qui m'étaient proches. Dans mon logement, j'ai vu Castro de Fer avec des journalistes au Roberc. Mais il est venu me soutenir. Mais lorsqu'on a parlé de Pflimlin, Castro de Fer a pris du recul. Il n'aurait jamais critiqué Pierre Pflimlin parce que tous les deux étaient maires de grandes villes. Mais rien n'empêche, il est venu me soutenir pour défendre mes idées. Et mes idées que j'avais, c'était ces idées de terrain. Comment faire évoluer ces quartiers?
Et comment vivre ensemble aujourd'hui? On a l'impression que plus personne n'arrive à vivre ensemble. C'est le communautarisme qui s'est développé.
Mais je crois que l'immigration, avec Jean Poprenne, on était plutôt pour l'assimilation. On n'était pas des faveurs de l'intégration.
Vous n'étiez pas favorable au communautarisme, ni à l'intégration?
Non. Non, on était plutôt en faveur de l'assimilation. On me le reprochait assez. Les gens bien pensants, même au Parti Socialiste, me reprochaient ça. Mais en 75-76, on a mené un débat sur la cité en ce qui concerne l'immigration. Il y a une journaliste qui était présente à notre réunion. Elle a demandé si elle pouvait assister à notre réunion. J'ai dit oui, mais être à l'écoute. On a sûrement invité des gens qui ont quelque chose à dire sur l'immigration. C'est eux qui doivent le dire. Le lendemain, elle a fait un article dans la presse qui était dans l'esprit de la réunion qui était faite. La première attaque est venue du Front National contre notre pensée par rapport à l'immigration. Mais on parlait pas d'intégration, on parlait d'assimilation. Mais on parlait avec les premiers pieds noirs qui étaient à Strasbourg, qui habitaient dans le quartier. Parce que avant tout, c'était les pieds noirs qui habitaient ici. Ensuite, il y a d'autres d'autres qui sont venus. Mais il faut dire que c'était une période pour moi qui était réellement, il fallait le vivre parce que j'avais des migrants qui travaillaient à côté de moi, qui ne comprenaient pas un mot de ce que je disais. Donc, on faisait des dessins. Comment qu'on travaille, comment, qu'est-ce qu'il faut prendre comme mèche pour percer ceci, cela. On l'écrivait. On l'écrivait.
Vous parliez en alsacien avec les immigrés?
Moi, je parlais bien en alsacien.
Je sais que vous parlez en alsacien, mais comme toutes les premières générations d'immigrés d'ailleurs.
Les premiers avec qui je travaillais, ce n'étaient pas des Algériens, c'était Yougoslaves, qui venaient de façon clandestine. Mais que nos entreprises ont empochées et que nous, on devait travailler avec eux. Quelques-uns savaient parler quelques mots en français ou quelques mots en allemand, mais on s'est débrouillés pour travailler ensemble. On a travaillé ensemble.
Mais aujourd'hui, ces populations, c'est gagné, elles sont assimilées. Le problème de l'immigration aujourd'hui, c'est pour beaucoup un problème de jeunes Français qui se sentent, à tort ou à raison, rejetés par la République et qui sont récupérés par les groupes, notamment de l'islam radical. Et au centre de la problématique, il y a le logement.
Oui, c'est là, je crois que à un moment donné, on a utilisé... Moi, j'avais un problème pas négligeable parce que sur le quartier, on s'est toujours battu d'avoir les loyers et les charges le moins élevé possible. À un moment donné, est venu l'appel. Alors, il y en a qui se disaient, on peut augmenter les loyers parce que l'appel peut compenser. Mais ça, c'était l'appauvrissement des quartiers. À travers l'APL, on a encore appauvri les quartiers. On a sorti des familles pour amener des familles pauvres. Où était la pauvreté très souvent dans l'immigration? La plus grande pauvreté était dans l'immigration. Moi, j'ai fait des réunions où je défendais les loyers les plus faibles possibles. Mais dès qu'on parlait de l'APL, la salle se vidait. Ils ont eu ceux qui étaient les plus pauvres, ils ont eu la compensation à travers l'APL. Donc ils avaient une satisfaction. Et qu'est-ce qu'on a fait? Très souvent, les logeurs, avec le secteur préfectoral, il faut placer avant tout les 25% les plus pauvres dans ces quartiers. Et c'est là qu'on a vécu l'appauvrissement. À un moment donné, on a vu le commerce qui fuyait parce qu'il s'estimait qu'il ne gagnait plus assez avec les gens qui venaient dans ces quartiers. Aujourd'hui, le repère qu'il avait, dans le temps, on avait deux supermarchés. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On va sur la route des Romains, on va au champ. Et ça, c'est parce que le milieu économique a estimé que les quartiers deviennent trop pauvres.
Vous évitez tout de même de me parler du fait que l'islamisme radical tente de s'imposer dans les quartiers.
Je ne suis pas tout à fait prêt à partager cette opinion. C'est vrai qu'il y a des tentations. Il y a des tentations d'occuper les postes qui sont vides. Parce que la population n'est plus là. Nous, on avait le quartier qu'on avait, je prends ça comme exemple, on avait 200 membres. On avait 200 membres dans notre association. Aujourd'hui, on a 10 membres. Lorsqu'on parle d'élection des locataires, qui est-ce qui vote? On ne peut pas le reprocher de voter pour le ressortissant. On ne peut pas le reprocher parce que les nôtres ne sont plus là. Ils ne votent plus, ils se fuient ces quartiers. Ils se habitent à la campagne ou autre part. Mais ces quartiers ont été délaissés. Avec la complicité des milieux préfectoraux. Ben, moi, je reproche beaucoup au milieu préfectoral. Moi, quand j'habitais dans le quartier, longtemps j'habitais dans la cité. Quand j'avais des problèmes juridiques, il y en a qui m'ont mené la vie dure parce que je profitais d'un logement social. Et c'était ma force de dire, aussi longtemps que je suis élu, je ne quitterai pas le quartier. Si les élus fuient le quartier, j'ai connu des élus de droite qui habitaient ici. Lorsqu'ils étaient élus, ils ont quitté le quartier. Et moi, je me suis fait une volonté de rester auprès de ceux qui m'ont voté pour moi.
Mais Jean Euler, des exemples comme ça, il y en a combien aujourd'hui? Par exemple, combien d'ouvriers élus?
Je dirais, pour les ouvriers, il y a beaucoup de références qui se sont... qui sont partis. On peut difficilement parler d'un ouvrier structuré aujourd'hui, parce que les entreprises n'existent plus qui permettent ça. Je prends l'exemple de Königshofen, il y avait les forges, il y avait le milieu brassicole, c'était des structures qui étaient où il y avait les ouvriers organisés.
Mais les ouvriers d'hier sont les salariés d'aujourd'hui.
Mais moi, je peux le dire, c'est un combat pour un ouvrier ou un petit salarié qui a le costume bleu ou blanc.
Col blanc ou col bleu, oui.
Les cols blancs, c'était ceux qui étaient cadres dans les entreprises dans le temps. Ceux-là ne se mélangeaient pas avec nous. Je me rappelle...
C'était la lutte des classes.
Oui, absolument. Je me rappelle, j'étais sur le marché de Neudorf. Il y a une personne qui s'est rapprochée de moi en 78. Il m'a dit, sur le bulletin de vote, j'ai vu, vous êtes contre-maître. Parce que vous êtes contre-maître, je peux voter pour vous. La dernière fois, c'était Marc Serrier, je ne pouvais pas voter pour vous.
Je veux évidemment qu'on revienne à un des facteurs de la victoire de 1981, c'est le programme commun de 1972, un programme de gouvernement avec le Parti communiste, mais pas que. Je vous propose de réentendre François Mitterrand à ce sujet.
À l'heure actuelle, il y a deux plans. Il y a le plan institutionnel, dans lequel nous estimons que le président de la République a le droit de choisir absolument, à plusieurs reprises, dans la même législature, des majorités différentes et des hommes différents. Nous ne lui contestons pas ce droit. Mais l'acte politique d'accord entre deux partis n'est pas de caractère institutionnel. C'est le cadre de la vie courante. Et or, nous sommes liés avec les radicaux de gauche et le Parti communiste dans un programme électoral qui nous engage à nous présenter ensemble au deuxième tour de scrutin, à faire une majorité ensemble, et il ne serait pas loyal vis-à-vis de l'opinion publique de dire... Vous allez nous donner la majorité pour qu'au lendemain de cela, nous fassions une politique différente. Et qu'après avoir été élu à gauche, nous fassions une politique de droite.
Mais alors, autrement dit, votre alliance avec les communistes ne va pas plus loin que la campagne électorale. C'est-à-dire, si par exemple, après les élections, M. Pompidou vous fait venir dans son bureau et dit « Monsieur Mitterrand, j'aimerais bien que vous rentriez dans mon gouvernement », est-ce que vous pouvez à ce moment-là accepter de rentrer ou est-ce que vous êtes tenu par votre alliance avec les communistes?
Mais je venais de vous préciser cela en vous disant que l'accord de gouvernement sur un programme commun signifie une solidarité des partis qui se présentent ensemble au deuxième tour de scrutin, pour l'union de la gauche, une solidarité durable. Et je l'espère bien, une solidarité durable pour la législature. Ce qui veut dire que les partis en question, notamment le Parti Socialiste, demain, si nous sommes dans une majorité de hasard, si nous n'avons pas la majorité ou relative importante ou absolue, nous ne participons pas à un gouvernement avec les partis de droite.
Vous refusez de participer à un gouvernement de coalition, comme on disait autrefois,
naturellement,
duquel les communistes seraient exclus.
Nous avons un pacte de droiture et de loyauté aussi bien avec les radicaux de gauche qu'avec les communistes, et nous n'avons pas le droit de dire aux Français « Votez pour nous tous ensemble aujourd'hui pour que dès le mois d'avril, nous offrions le spectacle de nos divisions. » C'est un engagement moral et politique.
Jean Heller, est-ce que vous étiez favorable, vous, à ce programme commun avec le Parti communiste ?
Dès le premier jour où je faisais des réunions, je défendais le programme commun. Parce que c'était notre espoir. C'est là qu'on trouvait les valeurs des travailleurs, qu'on trouvait dans le programme commun. C'était totalement la reconnaissance.
Pourtant, en 1977, lors du congrès de Nantes, c'était la bronca contre les communistes.
Oui, mais à partir du moment que le programme commun existait, il y avait toujours une certaine opposition qui était là contre le programme commun à l'intérieur du Parti Socialiste. Parce que je rappelle qu'en 1974, il y a l'Hérocratia qui sont venus, en 1974. C'est là où d'autres orientations ont pris le dessus à l'intérieur du Parti Socialiste.
On a reproché plus tard à François Mitterrand d'avoir tué le Parti communiste. À partir du moment où il a eu le pouvoir en 1981, il a nommé 4 ministres communistes qui se sont retrouvés piégés entre leurs idéaux et la réelle politique. Alors François Mitterrand est-il le fossoyeur du PCF ?
Non. Moi, je me rappelle, j'ai tout à l'heure parlé des lois Auroux. Quand on a travaillé aux lois Auroux, je me rappelle d'un certain Krasucki qui est venu à nous expliquer qu'il a besoin des matières. Il faut que l'on donne des éléments pour mobiliser les syndicalistes en faveur du programme commun, en faveur des propositions qu'on faisait dans les lois Auroux. C'était ça le combat qu'ils avaient besoin de mener, comment on arrive à mobiliser les gens autour de ces idées de gauche.
Je vous propose de réentendre François Mitterrand au congrès de Nantes en 1977.
Communistes, radicaux de gauche, et vous tous qui vous trouvez à nos marges, qui souhaitez nous rejoindre, vous tous qui ne l'avez pas dit encore et qui le direz d'ici là, vous tous, Françaises et Français, venez, débattons, pas trop longtemps, agissons, retrouvons-nous, majorité de notre peuple, majorité tout juste, n'en sais rien. On le dit, peut-être, c'est égal. Majorité qui tout aussitôt se transformera, si nous le voulons, en puissante majorité d'un peuple qui se ralliera par esprit démocratique, par amour du véritable changement et par sentiment de justice, qui se ralliera dans ses profondeurs au gouvernement de la gauche. Ce congrès a lieu en juin 1977. Je n'ignore aucune des spéculations dans nos rangs et en dehors sur ce qui pourrait se passer dans les deux hypothèses, victoire, échec. De toute façon, le Parti socialiste gagnera 16 élections, 16 élections SES. Mais il n'aura pas gagné 16 élections CES, il n'aura pas gagné 16 élections si la gauche ne l'emporte pas. Donc nous, socialistes, nous aurons rempli notre contrat. Pas tout à fait si la gauche ne l'emporte pas. Alors victoire ou défaite, on dit bon, victoire, alors le parti dans sa direction, dans certains de ses éléments, va être aspiré par les obligations gouvernementales. À ce moment-là, passe un rêve merveilleux. Toute cette place, libre. Ou bien un échec. Et à ce moment-là, on me regarde et on dit, toute cette place est libre. Je me permets de vous répondre qu'il n'y a qu'une réponse dans les deux cas. Ceux qui seront élus le seront pour 2 ans. Et que personne ne compte sur une autre hypothèse.
Jean Heller est notre invité aujourd'hui dans Profession de foi pour nous parler de la victoire de François Mitterrand en 1981. Il faut qu'on parle d'Europe maintenant. Jean Heller, vous avez été le député européen en 1979 de François Mitterrand, élu sur la liste de François Mitterrand. L'Europe, c'était un sujet déterminant pour l'ancien président de la République. Est-ce que pour vous, l'Europe a évolué positivement ou négativement depuis la fin du mandat de François Mitterrand ?
Moi, ce que je rends responsable au niveau du développement d'Europe, c'est plutôt l'élargissement.
Pourtant, il en parle de ses discours de l'élargissement.
Oui, oui, mais un élargissement qui tournait autour de 10-12 pays.
Comme le nombre d'étoiles sur le drapeau européen.
Non, mais c'est ça la réalité. C'était, avec 12, c'était difficile, mais c'était maîtrisable. Mais lorsque on a ouvert vers d'autres pays, c'était les moyens financiers qu'on apportait à ces pays qui avaient besoin d'importance. Moi, j'ai fait une réunion aux en Angleterre. J'ai fait une réunion où il y a le moment où les Polonais arrivaient. Et les Polonais parlaient de l'aide. Moi, je parlais Aide-toi.
Aide-toi et le ciel t'aidera.
Parce que je le dis, nous, on a peut-être les moyens techniques, mais il ne faut pas trop contrer sur les moyens financiers qu'on peut vous apporter. On ne peut pas faire de la charité avec les moyens qu'on a, mais on peut vous apporter tous les moyens techniques pour que vous puissiez évoluer.
Pourquoi l'Europe, c'était important pour Mitterrand? C'était la recherche de la paix?
Oh, je pense que c'était son passé à travers les années 40 qui ont aussi joué un rôle dominant. C'est comment rassembler les pays et donner une importance. Je dirais, on n'était rien seul, on n'était rien à côté des États-Unis. Et aujourd'hui, à côté des Chinois. L'Europe, c'est un multiple de pays qui parlent. Et les autres pays, c'est un. Ah. Et aujourd'hui, ce manque, on l'a. Parce qu'il était extrêmement... Il était peut-être plus facile de réunir les 10, 12 pays ou les 9 pays pour parler d'une voix. Et on est difficilement arrivé. Mais en 27 ou 28...
Ce n'est pas possible pour vous.
Pour moi, c'est...
François Mitterrand a été un des grands défenseurs de Strasbourg, capitale de l'Europe. Vous pensez qu'on va perdre ce statut ?
Écoutez, j'étais avec deux autres élus au Parlement européen. Pierre Pflimlin, qui était à ce moment-là président du Parlement européen. Francis Wurtz, qui était élu par le Parti communiste. On a travaillé ensemble pour la défense de Strasbourg, parce que l'attaque de Strasbourg était toujours là. De tout temps, je l'ai connu, l'attaque de Strasbourg. Et c'était toujours les mêmes qui attaquaient. Mais après, avec les autres pays, les nouveaux pays, ils s'étaient renforcés. Et aujourd'hui, les pays qui sont pour Strasbourg, si les présidents ou les premiers ministres ne s'imposent pas pour Strasbourg, Strasbourg est perdu. Malheureusement. Et je crois que là, les élus français étaient trop divisés. Est-ce que les Verts se sont battus au Parlement européen pour Strasbourg? J'en doute.
Nous voilà en 1981. Il faut bien qu'on parle de cette campagne, Jean Heller, cette campagne qui va vous laisser votre surnom de serrurier de Mitterrand à cause d'une affiche de 8 mètres de long sur laquelle vous apparaissez à côté de François Mitterrand. Ce surnom, ce sont les DNA qui vont vous l'attribuer.
C'est Charles-Louis English qui a mis l'ouvrier de Mitterrand. Ça ne correspondait pas aussi bien que le serrurier. Le serrurier était quelqu'un de qualifié. Donc, on donnait déjà une étiquette de qualifié.
Comment on vous a contacté pour faire cette affiche? J'ai eu beaucoup de mal à la retrouver. On la mettra en ligne sur le site de Radio Judaïka. Mais c'est Jacques Séguéla qui a composé cette affiche, qui vous a imposé, ou François Mitterrand?
C'est François Mitterrand. C'est François Mitterrand qui a formé l'équipe qui travaillait autour de lui. Mais si tu regardes l'affiche, il y a deux sur cette affiche qui ne sont pas rentrés dans le gouvernement. Il n'y a que deux.
Quand on regarde cette affiche, les personnalités qui sont dessus sont importantes. Edmond Hervé, Jacques Delors, Claude Cheysson, Haroun Tazieff, Nicole Questio, Charles Hernu, Alain Bombard, Bernard Tarot et vous, Jean Heller.
Mais Bernard Tarot n'est pas allé au gouvernement. Moi non plus. Mais tous les autres y étaient.
Et alors, vous ne regrettez pas?
C'est un choix qui s'est fait à un moment donné.
On vous l'a proposé?
Non, à aucun moment. Par contre, c'est là où on m'a dit il faudra peut-être que je remplisse l'une ou l'autre mission. La mission sur le frontalier. Hein. Mais
le Parti Socialiste avait besoin de vous en Alsace.
François Mitterrand m'a chargé d'une mission qui était implanter le socialisme en Alsace. Et en priorité, je devais me donner à ça.
En 1981, au moment où cette affiche paraît, vous pensez que cette fois-ci, ça passe, que François Mitterrand va être élu? Vous n'en doutez pas?
Non, j'étais convaincu. Dans la foulée des européennes, des élections cantonales, j'étais persuadé que nous allons progresser en Alsace. Et si on progresse en Alsace, qui était la cinquième roue de la charrette, l'Alsace, au niveau des élections, toutes les régions avaient fait déjà des évolutions non négligeables.
Dans le Haut-Rhin, le PS aussi progresse. On le voit avec l'élection, par exemple, de Jean-Marie Bockel.
Oui, mais Jean-Marie Bockel a été élu en 81. Il est élu en 81 dans une triangulaire, pas face à face. Il n'avait pas la même opposition et le socialisme était déjà mieux implanté dans la région de Mulhouse, quand même une ville ouvrière qui n'était pas ce qu'on m'a dit en 83. Jean Euler à Strasbourg, vous pouvez difficilement réussir. C'est une ville bourgeoise.
François Mitterrand sera réélu également en 1988. Pour le plaisir, nous allons réentendre un extrait du débat célèbre maintenant entre François Mitterrand et Jacques Chirac, avec une banderie du chef de l'État qui, elle aussi, est restée désormais célèbre. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Eh bien, je souhaite, monsieur Mitterrand, que vous et votre parti ayez la même conception de l'impartialité de l'État que celle que j'ai toujours eue et qu'a toujours eu le mouvement auquel j'appartiens.
Je vous ai observé pendant 2 ans. Vous me donnez là un bien mauvais exemple. Mais je ne veux pas m'engager davantage. Moi, je vous appelle et je ne fais aucune observation particulière sur votre façon de vous exprimer. Vous en avez le droit. Moi, je continue à vous appeler monsieur le Premier ministre puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans. Et que vous l'êtes. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien juste de le dire, de très réelles qualités. Vous n'êtes pas celle de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Vous avez dit, ce sont les travailleurs, ça paraissait extraordinaire, votre phrase, ce sont les travailleurs qui paieront les pots cassés de l'impôt sur les grandes fortunes.
Naturellement.
Nous continuons vraiment de vivre sur d'étranges nuages. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact que l'impôt sur les grandes fortunes soit plus cher qu'en Allemagne. Il est nettement moindre. Ce n'est pas exact. Deuxièmement, il y a 5 pays de l'Europe, de la communauté, qui ont un impôt du même ordre. L'Allemagne fédérale, nous en avons parlé, le Danemark, l'Espagne, le Luxembourg et le Danemark. Donc nous ne sommes pas isolés. Et la comparaison des taux permettra à nos entreprises de supporter fort bien la concurrence. J'ajoute, enfin, vous avez parlé des chats et des chiens. Moi aussi, je les aime beaucoup. D'ailleurs, je crois que nous avons des chiens de la même espèce. Et Dieu sait si on s'y attache. Alors, je ne peux pas vous répéter ce que j'avais entendu naguère. Vous n'avez pas le monopole du cœur pour les chiens et les chats. Je les aime, moi aussi. Mais lorsque la TVA a été effectivement augmentée par le gouvernement Mauroy, d'un point, au moyen, 17 et 18,5, il y a eu baisse correspondante sur les produits alimentaires, c'est-à-dire les produits de première nécessité pour les humains.
C'était François Mitterrand en 1988 lors du débat à la télévision. Pour terminer cette émission, il faut bien sûr aborder le sujet de l'héritage de François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, 40 ans plus tard? Qu'est-ce qu'il reste de François Mitterrand, selon vous, Jean Euler?
C'est difficile. Pour quelqu'un comme moi, la réussite à travers la présence de François Mitterrand, elle est toujours entière. Je regrette que beaucoup de gens ou beaucoup d'amis ont oublié ça.
Et ce soit détourné du message.
Oui. Oui, le message. Je dirais, Hollande a fait des propositions qui ne me convenaient pas. Je les ai combattues. La loi sur le travail, c'était tout ce qu'il ne fallait pas. Mais c'est la gauche qui l'a fait, normalement avec Valls. Tout ça, c'est une destruction. On avait la trentaine des parlementaires qui étaient opposés à ça à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas bon. C'est pas bon qu'une trentaine de parlementaires soient opposés au PS. C'était l'éclatement. Je dirais, les années de Hollande, c'était l'éclatement du PS. Il ne fallait pas grand-chose, mais ça a poursuivi. Je regrette, j'étais plutôt du côté de Martine Aubry. J'étais en faveur des propositions de Martine Aubry, parce que je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance à Martine Aubry. Et j'ai regretté qu'elle ne soit pas retenue.
Est-ce que le Parti Socialiste est mort, Jean Heller ?
Le Parti Socialiste a besoin de réfléchir sur les bases politiques qu'il veut mettre en avant.
Ça fait longtemps qu'il réfléchit.
Oui, je regrette. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Parti Socialiste qu'on avait besoin pour réfléchir avec eux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, la réflexion était difficile. Parce que le pouvoir est aussi passé par là.
Si vous aviez un souhait politique aujourd'hui, ce serait lequel ?
C'est que la réflexion politique ait de nouveaux lieux. Dans le temps, on menait des réflexions politiques et on avait des formules A, B, C sur la proposition A, sur la proposition B, sur la proposition C. Qui se prononce pour telle ou telle proposition ? Aujourd'hui, ça n'existe plus. Cette réflexion politique n'existe plus. Parce que la base pouvait se prononcer. Aujourd'hui, la base ne peut plus se prononcer. On se prononce dans un congrès. Mais qui sont dans le congrès ? C'est ceux qui avaient réfléchi. Et uniquement ceux qui ont la pensée intellectuelle. On aura peut-être besoin que ceux qui ont la connaissance, qu'ils aident à tout le monde à réfléchir.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Jean Heller ?
À moi ? De garder la santé.
Évidemment.
Garder la santé. Que je puisse encore longtemps donner mon opinion à ceux qui veulent l'entendre. Dans la foulée, le 10 mai, il y a la section de Neudorf qui organise un débat autour des mêmes sujets qu'il vient de discuter. Ils m'ont demandé si je suis d'accord. J'ai dit oui, je suis tout de suite d'accord pour parler de François Mitterrand. Mais je suis autant d'accord qu'il y a des gens qui sont prêts à l'écouter. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à écouter ? Ou est-ce qu'ils sont seulement prêts à défendre des idées de la vie de tous les jours ? On n'a pas le droit de se laisser influencer par la vie de tous les jours. On a besoin de donner des réflexions d'orientation à ceux qui veulent nous accompagner. Et c'est cette orientation aujourd'hui qui manque.
Merci Jean Heller, merci beaucoup pour le temps passé avec nous, pour fêter cet anniversaire des 40 ans de la victoire de François Mitterrand, à qui nous allons céder la parole pour son discours de ses derniers vœux. C'était le 31 décembre 1994. Merci Jean Heller.
Merci.
La lutte contre les injustices, j'y reviens toujours. Ceux qui portent le poids principal du travail et de la production, ceux qui peinent le plus, mais qui voient leur salaire augmenter faiblement quand il augmente, les licenciements massifs se multiplier et tout près d'eux ou dans leur rang s'étendre l'exclusion, ceux-là ont bien le droit d'espérer un plus juste profit dans leur vie quotidienne. Mais on n'y parviendra que si employeurs et salariés parlent entre eux, que s'ils engagent le dialogue, que si le gouvernement les y encourage, que si tous se décident à négocier ensemble des choses de leur vie. Pourquoi la discussion sur un nouveau contrat social pour l'emploi est-elle ainsi bloquée? Mes chers compatriotes, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous pour des vœux de nouvelle année en ma qualité de président de la République. Aussi, je me permettrai deux recommandations. La première, ne dissocier jamais la liberté et l'égalité. Ce sont des idéaux difficiles à atteindre, mais qui sont à la base de toute démocratie. La seconde, ne séparer jamais la grandeur de la France de la construction de l'Europe. C'est notre nouvelle dimension et notre ambition pour le siècle prochain. Et sur l'Europe, deux échéances nous attendent. D'abord la mise en œuvre du traité d'Union européenne, ensuite l'élargissement progressif de l'Union à l'ensemble des démocraties européennes. Que d'énergie et d'enthousiasme seront indispensables si l'on veut qu'aboutisse cette entreprise audacieuse. Élargir l'Europe, oui, mais sans l'affaiblir. Vous le voyez, nous avons du travail devant nous. Or, dès demain 1er janvier, et pour 6 mois, c'est la France qui présidera l'Union. Et cette situation ne se représentera plus avant longtemps. Le gouvernement a préparé avec moi les grandes lignes de cette présidence. J'ai demandé au Premier ministre d'accorder une importance particulière à la politique sociale, trop souvent négligée. À cet effet, nous recevrons bientôt les grandes organisations professionnelles et syndicales qui ont à faire valoir leur point de vue. Je vous le dis avec la même passion que naguère. N'en doutez pas, l'avenir de la France passe par l'Europe. En servant l'une, nous servons l'autre. Mes chers compatriotes, je n'apprendrai rien à personne en rappelant que dans 4 mois aura lieu l'élection présidentielle. C'est un rendez-vous important que la France se donne à elle-même. Je souhaite vivement que ce soit l'occasion d'un vrai, d'un grand débat, et sur tous les sujets, y compris les règles morales de notre vie publique et le rôle et les limites des divers pouvoirs. Les problèmes que nous connaissons ne disparaîtront pas pour autant, mais la France y trouvera un nouvel élan. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.